Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Amis. Aujourd'hui, je reçois Franz Vaillant avec À l'ombre des étoiles, c'est aux éditions du Cerf. C'est un très bel ouvrage qui compte les enfants d'un personnage célèbre, Colette, Maupassant, Picasso, etc. Et c'est un livre très intéressant. Il y a eu déjà des livres de fées en ce sens, mais comme celui-ci, non, parce que c'est pas succinct. On sent qu'il y a des recherches, du travail et des rencontres, et de belles rencontres. Bonjour, Franz.
Bonjour.
Alors, je vais dans un premier temps vous demander de vous présenter à nos auditeurs votre parcours et ce qui vous a amené à écrire.
Oui, alors je suis journaliste, je suis rédacteur en chef à TV5 Monde. Je suis entré dans la profession avec le journal Sud-Ouest. C'était il y a bien longtemps. J'ai poursuivi après à France 2 où j'étais grand reporter pendant 10 ans et je suis rentré à TV5 Monde au début des années 2000 et j'y suis très bien. Voilà. Donc je ne fais plus aujourd'hui d'actualités lourdes avec des drames, etc. Je m'occupe de la page Culture Prime sur Facebook pour TV5 Monde. Et à ce titre, je suis amené à rencontrer des gens qui relèvent tous du domaine artistique. Voilà. Alors, pourquoi je me suis intéressé à ces enfants de célébrités, c'est venu banalement d'une anecdote lors d'une soirée où quelqu'un me dit « Inutile de faire ton Georges Verlaine ». Alors je me dis « Non, c'est Paul Verlaine ». Il me dit « Non, Georges, il était contrôleur dans le métro ».
Oui.
C'est resté un peu dans ma tête, je me suis dit, tiens, donc Verlaine avait un fils, on connaît tous son histoire et ses amours orageuses avec Rimbaud, mais donc oui. Verlaine avait un fils, et c'est intéressant. C'est resté comme ça un peu dans le grenier de ma mémoire, et puis d'autres occasions, d'autres anecdotes sont venues se greffer dessus, notamment le fils Vian, le fils Ferré, avec qui je suis très ami, Mathieu Ferré, et je me suis dit, tiens, personne ne sait l'existence de ces gens-là. Personne ne sait comment c'est que de vivre en ayant un nom célèbre et est-ce que c'est pas trop lourd à supporter. Voilà. Et puis, mon métier a fait que j'ai interviewé le directeur des éditions du Cerf pour tout à fait autre chose et il me dit « Mais vous avez rien à me proposer parce que ben, vous êtes bavard, vous êtes enthousiaste. » Et je lui dis « Si, il y a un livre que je rêverais de faire depuis très longtemps, c'est mettre un coup de projecteur sur ces enfants de célébrité. » Il m'a dit « Bon, on le fait tout de suite. » Bon, j'étais un peu stupéfait parce que généralement, se faire publier, c'est parfois un peu un parcours du battant.
Exactement.
Et là, ça a été une autoroute, quoi, une autoroute du bonheur. C'était assez formidable. Et puis, alors, je l'avais un petit peu appâté. Je lui ai dit, est-ce que vous saviez, par exemple, que le fils de Picasso était le chauffeur de son père, que Verlaine, donc, était contrôleur de métro. Et puis, j'ai vu ses yeux s'ouvrir, et je me suis dit, tiens, je tiens peut-être quelque chose. Voilà comment ça a démarré pour compter l'histoire de ce livre.
Vous êtes parti en fait d'une anecdote très réelle qui vous est arrivée et je trouve ça intéressant. Et vous parliez à l'ombre des étoiles le directeur du Cerf, lui, il avait des étoiles dans les yeux.
Exactement, oui, j'ai vu un enthousiasme assez fort. D'ailleurs, j'étais un peu gêné en le quittant. Je me suis dit, il y a tellement d'auteurs qui galèrent pour se faire publier. Par le biais d'une conversation, en l'occurrence d'une interview, moi je vais publier. Enfin, j'étais très content et un peu confus aussi parce que j'avais l'impression de bénéficier d'un passe-droit. Sauf qu'après, il faut écrire le livre. Le plus dur, c'est pas d'écrire un livre. Le plus dur, c'est d'avoir envie de le faire parce que moi je cherche beaucoup, je recoupe tout, je suis très très méticuleux sur les dates, sur les anecdotes, sur tout ça, sur les illustrations. Et voilà. Donc, mais cela dit, c'est un travail d'enquête aussi, et j'ai l'impression, c'est un peu orgueilleux, mais j'ai même tout à fait l'impression de rendre hommage à des gens qui ont souffert et qui ont souffert parfois inutilement. Ils ont souffert parce qu'ils portaient dans ses lèvres. Voilà. C'est un livre sur la solitude aussi.
D'ailleurs, moi, c'est la première fois que je vois le portrait du fils de Maupassant, et la ressemblance est assez frappante, d'ailleurs.
Oui, alors Maupassant, c'est une drôle d'histoire. Il décède en 1893 et Bon, au début des années 1910, le journaliste qui s'appelle Auguste Nardi dit « Mais nous avons retrouvé les enfants de Maupassant ». Quand on connaît l'œuvre de Maupassant, parce que c'est mon papa, Maupassant, c'est mon écrivain préféré.
Ah, nous sommes deux.
Le thème de la bâtardise s'exprime dans Pierre et Jean, dans le nombre de nouvelles. C'est l'affaire est tout à fait étonnante. Et puis, dans ses écrits, il n'arrête pas de montrer une hostilité, voire une répugnance à la maternité. Et donc, Maupassant aurait eu des enfants. Et Auguste Nardi va se rendre à Sens, où vit un certain Lucien Ditzelmann, qui est employé de préfecture, et qui lui-même dit, effectivement, je suis le fils Maupassant, mais je ne suis pas seul, il y a deux sœurs avec moi. Et l'affaire va faire un petit peu de bruit, mais pas trop finalement, parce qu'arrivent les événements de 14-18, la guerre mondiale, et l'affaire va rester enterrée. Et moi, je me suis quand même intéressé à ça, c'est-à-dire que ces enfants-là, il n'existe pas de preuve aujourd'hui que Lucien Ditzelmann est le fils de Maupassant. Il faudrait faire un test ADN. C'est-à-dire qu'il faudrait aller prendre un petit bout de Maupassant, là, il est enterré à Montparnasse, un petit bout de Lucien Ditzelmann, il est enterré à Sens, et faire un test ADN pour le savoir. Mais ce qui m'intéressait, et c'est le seul cas dans le livre, c'est que lui-même a été persuadé, et il y a nombre d'éléments troublants qui tendraient à prouver qu'il est effectivement le fils de Maupassant, mais seule une preuve biologique pourrait l'affirmer. Lui n'a jamais, comme ses sœurs, ils n'ont jamais revendiqué cette paternité illustre. Ils ont vécu dans l'ombre, ils savaient, enfin, ils pensaient jusqu'à leur fin qu'ils étaient des enfants de Maupassant, et c'est une affaire qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup ému aussi, parce qu'ils ne revendiquaient rien. Souvent, dans des problèmes de non-célèbres, il y a des problèmes d'argent, d'héritage, etc., eux ne revendiquaient absolument rien. Il disait, nous savons qui nous sommes, ça nous suffit. Je trouve ça bien. J'aime bien, moi, l'humilité aussi chez certaines personnes et cette espèce de modestie.
Oui, moi aussi, ça m'a beaucoup touché dans votre livre, cette partie sur les mots passants. Et moi, c'est la ressemblance qui m'a assez interloqué. Et également, vous parlez que, pour la partie mots passants, je fais une anecdote, étant donné mon amour des écrits de cet illustre écrivain. Il a été chroniqueur plus que journaliste sportif, et je parle de Lucien, hein, et c'est vraiment un des points communs qu'on pourrait voir avec son père, parce qu'il était amoureux de boxe et de sport nautique. C'est ça qui est amusant.
Oui, alors, il a quasiment peu écrit, et je pense qu'il était amoureux en qualité de spectateur.
Oui, voilà, c'est ça.
Mais il n'a pas écrit, sachez que j'ai plongé dans les archives, j'ai regardé tous les journaux de son temps de vie auxquels il collaborait, il était correspondant, on va dire journaliste, etc. Non, il a écrit un petit truc une fois, qui est la rencontre d'une compétition de boxe, je crois. Ça n'a aucun intérêt. Et il n'avait pas de talent littéraire. Il avait un talent de vie, certainement, mais il n'avait pas de talent littéraire. Et c'est d'ailleurs ce qui désarçonne un peu ces enfants-là. C'est-à-dire que les enfants dont je parle, il y en a 10 dans l'ouvrage, peu ont du talent artistique. Et on leur reproche de ne pas posséder un talent artistique. Non.
Il ne faut pas leur reprocher, ils mettent la pression, là.
C'est vrai, mais la société leur reproche cela. Parce que dans l'esprit de nombre de personnes, le talent est quelque chose qui est héréditaire. Non, le talent, comme disait Boileau, c'est une longue patience. Et souvent, d'ailleurs, le talent de leurs parents, hommes ou femmes, les a contraints et les a immergés dans une solitude terrible. Et beaucoup ne veulent absolument pas se jeter, on va dire, dans cette jungle artistique, afin que leurs propres enfants n'aient pas à subir le prix qui est quand même très élevé.
Justement, moi, j'ai une petite question à vous poser. C'est vous avez donc écrit le parcours de 10 enfants d'eux. Par contre, est-ce que vous avez écarté des filles et fils d'eux, et pourquoi?
Alors oui, je pense à trois personnes. Colette Destouches, qui était la fille unique de Céline, par exemple.
Oui.
Elle est décédée il y a quelques années. J'aime beaucoup Céline aussi. En fait, je n'écris que sur des gens que j'aime bien, que j'aime en fait. Hein. Et parce que j'ai fouillé un petit peu dans sa vie, je n'ai rien trouvé de remarquable. Ça a été une vie paisible. Ce qui m'intéressait, c'est d'être la fille d'un homme génial et qui était un des hommes, et encore aujourd'hui, un des hommes les plus détestés dans l'histoire de l'art et les plus admirés.
Ah,
et alors, Colette Détouche, elle a assisté, malgré tout, elle avait donné une interview dans le Figaro, si ma mémoire est bonne, elle a assisté à la naissance de l'œuvre de Voyage au bout de la nuit, ce qui n'est pas rien quand même.
Ah bah oui.
Elle est dans son lit et elle évoque son père qui fait les 400 pas dans la maison en train de scander les phrases comme Flaubert le faisait avec son Benoît. Mais à l'exception de cette anecdote, je n'ai rien trouvé de saillant. Voilà. Catherine Gide aussi, la fille naturelle, et c'est la seule enfant d'André Gide qui était prix Nobel de littérature, je n'ai rien trouvé de particulier. J'aurais pu écrire une demi-page, une page, mais je voulais donner un peu de chair quand même à tout ça. J'ai rien trouvé. Et puis, un de mes grands regrets, c'est Alexandre Diego Gary, le fils de Romain Gary et de Jens Iberg.
Oui.
Je lui ai écrit deux mails pour lui expliquer un peu ma démarche, deux mails qui sont restés sans réponse. Alors, je n'en ai pas pris ombrage parce que les gens font ce qu'ils veulent.
Bien sûr.
Parce que souvent, les journalistes sont des cambrioleurs. Moi, je ne cambriole pas. Je pousse la porte parce qu'elle est entrouverte. Hein. Bon. Et puis, je me suis rendu compte en fouillant quand même que sur l'œuvre de Romain Gary, de Jens Iberg, d'être l'enfant unique, donc Alexandre Diego Gary, je me suis rendu compte qu'il n'avait jamais accordé d'interview à personne, ni à France Culture, ni à France Inter, ni à personne. Donc il était normal qu'il me refuse, qu'il ne m'ouvre pas sa porte. Voilà. Mais c'est dommage parce que j'avais lu un nombre de biographies, à chaque fois j'ai des dossiers très solides, on n'est pas dans une presse nipole, hein. J'essaie de faire mon travail sérieusement. Et vraiment, j'aurais aimé le rencontrer. Voilà. Mais bon, voilà, ça, c'est pas fait.
Et peut-être que vous avez dans votre tête, parce que je vous écoute parler depuis quelques minutes, et j'entends très bien votre passion par rapport aux sur les gens, sur les fils ou filles d'eux que vous avez écrits. Je trouve cette passion, est-ce qu'on va pouvoir avoir un volume 2 de À l'ombre des étoiles?
Alors, oui, alors ça ne dépend pas de moi. Bien sûr. Ça dépend de l'éditeur, mais si je devais faire un deuxième volume, alors pour tout vous dire, j'ai commencé déjà à rassembler un petit peu de matériel.
Ah.
Mais bon, je termine un roman en ce moment, donc voilà, j'aimerais le faire j'aimerais écrire sur des artistes étrangers. Par exemple, Mozart avait un fils qui s'appelait Franz. Et la veuve de Mozart, Constance, de mémoire, son prénom, était persuadée que son fils avait autant de talent que son père. Vous vous rendez compte, avoir plus de talent que Mozart, autant de talent que Mozart, c'est absolument impossible. Et il en est mort d'un ulcère à l'estomac à une quarantaine d'années, je crois, parce que systématiquement, on lui mettait en miroir son père, qui était un des grands génies. Et donc, j'ai quelques exemples aussi comme ça. À gratter, donc sur lequel je pourrais gratter, c'est un peu plus difficile parce que ça demanderait, si j'écrivais le livre, de me déplacer beaucoup à l'étranger, d'aller consulter des bibliothèques à l'étranger, mais ce serait pas inintéressant sans doute, voire même un deuxième volume pour des artistes, des enfants d'artistes français, hein. J'en ai encore quelques-uns, mais bon, voilà, j'attends l'accueil qui sera fait à ce livre, j'attends les nouvelles de l'éditeur. Et puis tout ça, quoi.
Oui, écoutez, déjà, c'est bien entendu. On va faire donc là une page musicale. C'est vous qui avez, il a proposé à nos auditeurs. Vous avez choisi en premier Léo Ferré avec Ton style. Ensuite, By This River de Brian Eno. Et Joran avec Ineffable. Pourquoi ces choix?
Ah, Ferré, parce que c'est un monsieur que j'ai rencontré quand j'avais 17 ans et qui a changé ma vie du jour au lendemain. Et par son œuvre, par sa puissance, par cette béquille humaine qu'il a pu représenter quand ça n'allait pas bien dans ma vie. Et je pense que le seul mot qu'on peut dire à des artistes, c'est leur dire merci. C'est le seul mot qui est valable. Et Ferré, je continue de lui dire merci et je continue de lui dire merci jusqu'à la fin. J'en parle, là, je parle de Mathieu, de son fils. Dans
oui, tout à fait.
Et, j'ai fait deux documentaires, j'ai écrit deux documentaires de 54 minutes sur Ferré, j'ai écrit un essai sur lui, etc. Je pense que c'est un artiste méconnu, trop méprisé d'ailleurs, mais méprisé par des gens qui ne le connaissent pas. Et vous savez, le pouvoir des artistes, c'est qu'ils arrivent à vous délester de la pesanteur terrestre, quoi. Et Ferré est un merveilleux magicien. Je pense que c'est l'artiste, parmi les artistes les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle.
Je vous fais, ce que vous dites m'amuse, excusez-moi de l'expression, mais je ne sais plus qui avait dit « Un artiste ne peut laisser insensible, que ce soit dans l'amour que dans la haine ».
Oui, 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 c'est très juste, mais il y a un malentendu chez Ferré. C'est d'ailleurs un double mot, un mal entendu par ceux qui l'aiment, un malentendu par ceux qui ne l'aiment pas. Et c'est une œuvre extraordinaire, c'est une œuvre d'amour d'une richesse incomparable. C'est pas une île, Ferré, c'est un continent. Vraiment, les gens s'arrêtent sur le rivage avec le temps, cet extra, Paris Canaille, quelques chansons, Tu ne dis jamais rien. C'est immensément plus large. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense même que son œuvre devrait être remboursée par la sécurité sociale, tant elle fait du bien.
Mais vous savez, Ferré a un peu le même un parcours à peu près similaire à un autre immense artiste français, d'origine italienne aussi. C'était Nino Ferrer.
Ah, que j'aime beaucoup aussi.
Et ils ont un parcours un peu similaire. Nino Ferrer a vécu sa vie artistique sur un malentendu, parce qu'on l'a toujours catalogué à des trucs comme Mirza ou le téléphone ou les cornichons, mais alors que c'était un artiste beaucoup plus profond que cela, autant musicalement qu'intellectuellement.
Ah, mais L'Arbre Noir, c'est une des plus belles chansons qui a été écrite dans l'album Blana. Sauf que Nino Ferrer, c'est fourvoyé volontairement, ce que c'est jamais fait Ferré. C'est-à-dire que.
Ah oui, ça c'est vrai.
Et Ferré est toujours, toute sa vie durant, est resté imperturbable, rageur. Ferrer, c'est plus un amour blessé, c'est plus une blessure qui a culminé jusqu'à son suicide, parce que effectivement, comme vous le rappeliez, on le ramenait toujours à ses 3-4 chansons et ses albums, ses concept albums. Ça a été un des premiers à le faire,
Le Sud notamment.
Exactement, les gens se sont arrêtés à la chanson Le Sud, mais il faut qu'ils écoutent le reste de l'album qui est prodigieux. Et je suis frappé quand même, ça c'est une chose qu'on n'a pas par exemple avec nos amis belges, avec nos amis allemands. En France, on est quand même très succinct dans la connaissance d'une œuvre. On se permet de parler d'un artiste, et pourquoi pas, alors qu'on ne le connaît pas. On connaît une ou deux chansons, on a le sentiment que ces deux chansons vont éclairer une œuvre tout entière. Non, c'est bien plus large et bien plus profond que ça. Sinon, ça n'est pas que Maigret, c'est aussi des romans durs. Il faut fouiller un petit peu, il faut mettre un peu d'éclairage comme ça sur une œuvre. Et c'est peut-être aussi la faute aux journalistes qui font pas bien leur métier, et sous couvert de ça va peut-être pas plaire, les gens n'aiment pas découvrir. Moi je crois pas, je pense que les gens, quand on leur explique, quand on présente et quand on amène un artiste, la connaissance d'un artiste d'une certaine manière, je pense que le poisson il mord à l'hameçon, et au contraire après vous en souvenez d'avoir découvert une chose qu'il croyait connaître.
Vous prêchez un convaincu là.
Alors, tout va bien.
Vous prêchez un convaincu, et je prends. C'est comme. Moi, je suis un énorme fan d'Alexandre Dumas. Mais Alexandre Dumas, ce n'est pas que Les Trois Mousquetaires ou Le Comte de Monte Cristo. En France, on a tendance à rester sur un succès à un moment donné d'un artiste, ce qui est complètement mauvais. Parce qu'avec le temps, il y a des romans qui sont beaucoup plus contemporains dans le futur de l'écrivain qu'un titre lambda qui a fait un succès mémorable, mais qui au fil du temps se démode.
Bien sûr, bien sûr. Prenez Mon Passant. Alors moi, j'aime tout Mon Passant.
Moi aussi.
J'aime absolument tout. Mais des romans comme Fort comme la mort, par exemple, est boudé, alors que c'est un chef-d'œuvre. Et c'est intéressant, encore une fois, de fouiller. Si Dieu me prête vie, comme on disait avant, c'est peut-être un essai que j'écrirai en France sur la paresse. Je pense que la paresse est un des cancers de notre époque, la paresse. Et il y aurait beaucoup de choses à écrire dessus, cette espèce de paresse intellectuelle qui consiste finalement à rester dans une zone de confort. Et moi, je me dis que ces artistes-là, ils ont écrit pour eux d'abord, pour nous ensuite. Et il est dommage, c'est même un peu cinglant, un peu humiliant que de ne les juger ou que de les estimer que sur une ou deux œuvres, quoi. Une œuvre, c'est un chapelet d'émotions extraordinaires. Pour avoir le droit de parler de quelque chose, il me semble qu'il faut d'abord bien le connaître.
On se retrouve tout de suite après votre page musicale. On reviendra sur Brian Eno et Joran en début de prochaine partie. Et moi, je recommande cette page musicale qui est très agréable. Je l'ai écoutée bien en amont et je vous certifie, chers auditeurs, à tout de suite.
Tous ces cris de la rue, ces mecs, ces magasins où je te vois dans les rayons comme une offense, aux bijoux de trois sous, aux lingeries de rien, ces ombres dans les yeux des femmes quand tu passes, tous ces bruits, tous ces chants et ces parfums passants quand tu t'y mets dedans, quand je t'y exile pour t'aimer de plus loin comme ça en passant, tous ces trucs un peu dingues, tout cela c'est ton style c'est ton cul. C'est ton cul, c'est ton cul, ton style, c'est ma loi. Quand tu t'y plies, salope, c'est mon sang à ta plaie. C'est ton feu à mes clopes, c'est l'amour à genoux et qui n'en finit plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. Tous ces ports de la nuit, ce monde qu'on voudrait bien, et puis qu'on ne veut plus, dès que tu me fais signe au coin d'une réplique, enfoncé dans ton bien par le sang de ma grappe et le vin de ta vigne, tout cela se mêlant en mémoire de nous, dans ce monde perdu de l'an 80 000, quand nous n'y serons plus et quand nous renaîtrons, tous ces trucs un peu fous, tout cela c'est ton style, c'est ton. C'est ton cul, ton style, c'est ton droit. Quand j'ai droit à ton style, c'est ce jeu de l'enfer, de face et puis de pile. C'est l'amour qui se tait quand tu ne chantes plus. Ton style, c'est ton cul, c'est ton cul, c'est ton cul. À t'en vouloir connaître, on ne connaît plus rien. Ce qui me plaît chez toi, c'est ce que j'imagine à la pointe d'un geste, au secours de ma main, à ta bouche inventée, au-delà de l'indigne, dans ces rues de la nuit, avec mes yeux masqués. Quand tu ne reconnais de moi qu'un certain style, quand je fais de moi-même un autre imaginé, tous ces trucs imprudents, tout cela c'est ton style.
to me as if from a distance, and I reply with impressions chosen from another time, 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 from another time.
De retour dans le café des amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com avec mon invité du jour, donc France Vaillant, pour son livre À l'ombre des étoiles, qui narre les enfants de personnalités célèbres. Et c'est aux éditions du Cerf. Je le recommande vivement. Donc, avant de revenir au livre, vous avez mis Brian Eno et Joran comme oui. titre de votre programmation musicale. Et justement, c'est la première fois qu'on me met, qu'on me les met. Et pourquoi vous, enfin pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené à les, à mettre ces deux titres et ces deux artistes?
Oh, mais il y a un univers, il y a une sensibilité. Moi, j'aime que les choses qui arrivent à m'émouvoir. Bon, et il se trouve que ces morceaux sont pour eux d'une émotion assez étonnante, un peu triste, un peu nostalgique et forte à la fois. C'est pas une nostalgie qui vous plombe, qui vous pèse, qui vous terrasse. C'est une nostalgie qui vous porte. Et j'aime bien ça. Moi, j'aime bien pleurer. J'aime bien me sentir vivant, quoi. Et vous savez, Jules Renard, dans un de ses ouvrages, dit à un de ses personnages, tu es un homme puisque tu pleures. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que certaines œuvres, notamment musicales, permettent de vous sentir terriblement vivant, y compris dans la tristesse, en tout cas dans la mélancolie. Et ce sont des œuvres un peu mélancoliques qui nous rappellent qu'on a un cœur dans la poitrine qui n'est pas forcément un muscle, mais qui est un cœur.
Tout à fait. Justement, alors, vous narrez dans ce livre la fille de Max Linder qui elle a vu le jour dans des circonstances elle a eu une vie, le début de sa vie a été quand même dramatique avec le suicide de Max.
C'est terrible. Oui, l'affaire commence en 1925 à l'hôtel Baltimore, à New Kléber, à Paris, pas très loin de l'étoile. On a découvert les deux corps, celui de Ninette, sa femme, et Max Linder, et leur poignet était tranché, ils avaient avalé du Vérona, du barbiturique, et en fait, il semblerait que ce soit Max Linder qui était atteint de délire paranoïaque et d'une jalousie folle. Et c'est lui qui a suicidé, en fait, sa femme, sa compagne. Et ils ont laissé une petite fille qui s'appelait Maude Leviel, Leviel étant le vrai nom de Max Linder. Et elle avait 16 mois à ce moment-là. Et c'est un parcours du combattant, c'est un chemin de croix, ça a été quelque chose de terrible, terrible, terrible pour elle, parce que la mère de sa mère, donc sa grand-mère, Mathilde Peter, sa grand-mère, a tout fait pour récupérer la garde de cet enfant. Et la famille Leviel, ils habitaient près de Bordeaux, a tout fait aussi. Donc, il y a eu une bataille judiciaire que j'évoque. Je suis allé jusqu'à retrouver les minutes du procès.
C'est ce que je voulais en venir là-dessus. Oui. Continuez.
C'est assez terrible. Et la grand-mère Mathilde Peters va enlever sa petite-fille parce qu'elle n'accepte pas cette décision judiciaire. Tout ça, ça va se régler par un avocat interposé. Et en fait, pour aller vite, elle va s'apercevoir, Maude Leviel, donc la petite fille dont je narre, Maude Linder, on va dire, dont je narre l'histoire, elle va s'apercevoir qu'elle a été surtout le fruit d'un enjeu financier. Parce que Max Linder disposait d'une fortune extraordinaire. Max Linder, ça dit peut-être peu de choses aux gens. Max Linder a été le seul professeur de Charlie Chaplin, et tout est dit en disant ça. Il a été génial jusqu'au bout, mais il avait une vie un petit peu déréglée. Et un jour, elle a découvert son père, la petite Maude, qui était devenue grand à l'âge de 20 ans, lors de la projection d'un film à Versailles. Parce qu'on lui avait caché qui était son père. Elle savait à peu près qu'elle pensait disposer d'une fortune. En fait, le frère de Max Linder, puisque c'est lui qui l'a élevé les premières années de vie, a tout dépensé. Il a été jusqu'à enterrer les bobines du film. Donc, aujourd'hui, on ne connaît qu'environ 35, voire 40% de l'œuvre de Max Linder. Tout le reste a été mangé par le temps, par la bêtise, par l'insouciance des gens. Et la petite Maude, donc, âgée de 20 ans, voit son père pour la première fois à l'écran. Et elle est très partagée parce que elle voit immédiatement combien cet artiste est génial, mais c'est un salaud aussi, un salaud qui a tué sa mère. Et c'est assez tragique tout ça, c'est assez tragique. Donc, elle va faire en sorte que toute sa vie, elle va employer sa vie à fouiller l'œuvre de son père, à retrouver, à acheter à prix d'or des mauvaises copies qu'avaient des projectionnistes dans les foires, etc., pour reconstituer l'œuvre de son père, un peu comme on le ferait avec un puzzle. Mmh. Et malgré tout, elle ne pourra pas s'empêcher de se dire que tous les malheurs qui lui sont arrivés, c'est pas la faute de son père, quoi. et qui était un génie et un malade, plus qu'un salaud d'ailleurs, et un grand malade.
Oui, tout à fait. C'est cette dame qui a, elle a œuvré justement pour comprendre son passé, son histoire, l'histoire familiale, quoi, en fait.
Oui.
Et moi, j'ai trouvé cette partie très, très, très touchante. Je vous l'accorde.
Oui, parce que c'est comment dire ça, c'est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire que quand en 1925, quand le commissaire de police force la porte de cet hôtel Baltimore à Nuclebert, il voit deux corps ensanglantés. Ils sont transportés en urgence dans une clinique proche et Hélène Linder, elle expire vers 17h30. Et Max, son mari, donc qui l'a tué, qui l'a suicidé, il expire à 2h du matin. Et tout l'enjeu du procès va être à quel crédit doit-on donner pour le testament. Est-ce que c'est celui du père ou de la mère? La mère dit « Je veux que ma fille, s'il m'arrive un malheur, soit confiée à ma mère. » Max dit « Je demande absolument que ma fille soit confiée à mon fils. » Et bien, c'est la loi qui s'est appliquée. Alors, moi, j'ai relu un peu les minutes du procès. Il y a quelque chose, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont anti-féminins. Enfin, c'est quand même... on sent que du public aussi et des jurés va vers Max, enfin la famille de Max. Mais dans la mesure où Max est décédé le dernier, donc au dernier survivant, on va respecter le testament. Tout ça, en fait, n'est qu'une captation d'héritage pour la famille de Max Linder et la grand-mère va obtenir gain de cause parce que simplement elle va demander les comptes. Elle va demander les comptes après d'innombrables procès en référé, etc. Elle va demander les comptes de cette éducation et on s'apercevra que le fameux frère, qui est un peu fou d'ailleurs, a mangé la majeure partie de l'héritage. Et afin de ne pas créer un scandale public, ils vont renoncer à garder cette petite fille, à élever cette petite fille, et la grand-mère va récupérer sa petite fille. Le problème, c'est que la grand-mère aussi n'est pas exempte de crise un peu folle et la gamine va être victime. Cette gamine, finalement, c'est comme une boule de flipper qui se cogne à droite, qui se cogne à gauche, etc. et qui en sort peut-être pas cabossée, mais très abîmée quand même.
Oui, non, mais tout à fait. Une histoire qui est... Elle est décédée très âgée, cette...
À 93 ans, en 2017, elle est morte, oui.
Elle aura voué sa vie à ses parents, à l'œuvre de son père, à son histoire, quoi.
Oui.
Histoire familiale. C'est ça qui est quand même assez impressionnant. Et c'est vrai.
Parce que ça reste des parents aussi. On le voit dans des cas de hélas plus banal, mais pas moins tragique. On voit par exemple que les parents maltraitants, y compris pour l'enfant battu, mais malgré tout, ça reste des parents. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, nous sommes bien d'accord. Je peux comprendre. Et vous l'avez rencontré, Maud Linder?
Non, je suis allé à la Cinémathèque Suisse pour voir, j'évoque ça en début de chapitre là, concernant, voir les archives. Je ne l'ai pas rencontré. C'est une histoire ce sont des histoires assez terribles, mais il faut quand même relativiser. C'est-à-dire que moi, je brosse 10 portraits. On l'a évoqué, Maupassant, Jules Verne, Prévert, Picasso, Le Fils Ferré, etc. Mais il faut bien reconnaître, c'est difficile aujourd'hui de l'admettre, mais que les artistes sont des gens exceptionnels, c'est-à-dire qui relèvent de l'exception. Et on ne peut pas espérer d'eux ni attendre d'eux des comportements classiques, des comportements banals, attendus, quoi. Et ils sont avant tout mariés à l'art qu'ils représentent. C'est une chose difficilement compréhensible aujourd'hui, où partout on prend l'égalité en tout domaine. Et un artiste, c'est pas un être humain supérieur, c'est un être différent. Et alors, il est surtout marié avec son art. Et on pourrait dire, quand on referme la dernière page d'ouvrage, que ce sont des monstres d'égoïsme. Je crois pas. Non. Ce sont des monstres plus ou moins sacrés, mais en tout cas, ce sont des monstres qui sont d'abord au service de leur art. Et il faut savoir que cette notion même d'enfant, de descendant, cette notion d'enfant est assez récente. En France, elle apparaît après la deuxième partie du XXe siècle, au moment d'ailleurs du rock, etc., des années 50. Pour être l'enfant d'un artiste, c'est une descendance. Les enfants n'ont pas droit de parler à table. On n'est pas du tout dans des schémas d'éducation tels qu'on les connaît aujourd'hui. Exception faite pour Léo Ferré et pour Catherine Camus, donc la fille d'Albert Camus, où là, ils avaient des parents qui étaient à l'écoute, mais souvent absents aussi. Et c'est quelque chose, il ne faudrait pas sanctionner ni lapider ces artistes en se disant « Mon Dieu, quel salaud !» Non, c'était des artistes. Et alors peut-être ont-ils eu tort d'avoir des enfants, après tout, Beethoven n'a jamais eu d'enfants, et voilà, peut-être que les enfants de Beethoven ont été des gens malheureux. Mais en tout cas, être un enfant avant 1950, c'était peut-être pas grand-chose, finalement, aux yeux de la loi même, quand on sait, par exemple, que le fils de Jules Verne, Michel Verne, il a placé son gamin dans un pensionnat à l'âge de 5 ans. Il y a eu une simple signature auprès d'un juge pour un internement par voie de correction paternelle. C'est une procédure qui permet aux parents de faire interner son propre enfant. Lui, pourquoi il faisait interner son propre enfant? Parce que il avait des maux d'estomac, parce qu'il criait, parce qu'il emmerdait un peu Jules Verne. En fait, le gamin voulait simplement exister. Et après, il a mis son gamin dans une maison de redressement à Maitré, en Touraine. Plus tard, Jean Genet évoquera tout ça. Il écrira des pages acides sur ce lieu où l'on torture les gamins. Il faut bien admettre ça. En tout cas, pour des artistes qui sont à cheval entre le 19e et le 20e siècle, un enfant, ça compte peu. C'est une descendance, point barre.
Oui, c'est vrai ce que vous dites. Dans tout ce que vous venez d'évoquer, est-ce que je vous ai posé la question tout à l'heure que si vous aviez écarté des enfants et des fils d'eux, mais est-ce qu'il y en a, par exemple, par souci avec l'affiliation, vous avez délibérément décidé d'écarter?
Non, parce que toute vie humaine est intéressante. Bon, mais le journaliste que je suis, là, encore une fois, il a besoin d'éléments. Vous savez, un pâtissier a besoin d'ingrédients pour faire un gâteau. Donc,
nous sommes bien d'accord.
Pour certains, on l'évoquait tout à l'heure, Colette Détouche, la fille de Céline, Catherine Gide, la fille du prix Nobel André Gide. Mmh. Diego Garis, encore autre chose, parce que lui, j'avais beaucoup, beaucoup d'éléments par contre. Mais il me semble que je ne peux écrire que sur des gens que j'aime bien. En tout cas, je sens une résonance, y compris dans la solitude. C'est un peu orgueilleux, mais j'ai l'impression de mettre un peu de lumière et de rendre justice à ces gens que le temps a gommé plus ou moins volontairement. Et c'était des gens comme vous et moi, qui avaient un cœur. C'est pas une chance forcément d'être le fils d'une personnalité. Ça peut même se révéler être quelque chose de terriblement encombrant. Et parce que finalement, les gens qui viennent à vous, pourquoi viennent-ils à vous? Ils viennent à vous pour vous, parce que vous avez un nom précieux, un nom connu. Et c'est un peu le cas des belles femmes. Pourquoi ces hommes-là viennent à moi? Est-ce que c'est pour ma plastique ou est-ce que c'est pour moi, pour ce que je dis? Et c'est un problème qui peut amener à des désordres très graves, ça.
Oui, je comprends. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'attends véritablement le volume 2 s'il vient à sortir. Je vous le dis parce que c'est remarquablement bien écrit et on voit effectivement que vous mettez beaucoup d'émotion dans vos mots avec ces enfants qui ont vécu. Le fil conducteur, c'est d'avoir eu un parent célèbre, mais qui ont eu quand même des vies vraiment très différentes, mais qui ont eu quand même le poids de l'histoire de leur père ou de leur mère.
Il y a une solitude, encore une fois. Vous savez, François Sagan disait mieux vaut pleurer dans sa Jaguar qu'au fond d'autobus, quoi. Alors bien sûr, il y a de l'argent, il y a tout ce qu'on veut. Moi, je pense mieux vaut ne pas pleurer, voilà. Et cette solitude m'a touché. Aujourd'hui, en 2023, on vit une époque faussement triomphante où on a le choix, l'embarras du choix parfois sur plein de choses, etc. Mais il y a des choses incommunicables. La solitude est quand même, elle est terrible. Elle est terrible d'autant qu'elle est ravivée, elle est rehaussée, on va dire, par des gens qui vous envient. Ils vous disent, mais enfin, de quoi tu te plains? Après tout, tu n'as pas à te lever le matin pour gagner ta vie, etc., etc. Mais ça ne veut rien dire, tout ça. Enfin, Si l'argent faisait le bonheur, ça se saurait. De même, s'il fallait acheter un stylo Mont-Blanc pour écrire comme Maupassant, ça se saurait aussi. Non, il y a des vies comme ça, un peu fracassées, et ça me touche beaucoup. Voilà.
Ça se ressent dans vos écrits. Alors, du coup, quels sont vos projets après ce livre et vos rencontres avec votre public qui ont lu ce livre, justement?
Alors, les rencontres, il y en a eu assez peu, en fait. J'en ai eu via ma page Facebook, où pas mal de gens ont acheté le livre et l'ont lu, ce qui est bien. Et donc, j'ai reçu pas mal de messages via Messenger sur Facebook. J'ai reçu un bon accueil dans l'Express, dans VSD. Le JDD, qui est en grève, je sais qu'ils ont écrit quatre pages sur le livre. Quand la grève s'arrêtera, je sais pas trop quand, j'espère qu'ils les publieront. Ce que j'ai reçu, c'est comme émotion et comme réaction, c'est ce dont vous parlez, à savoir, je pense que les gens ont été touchés par cette solitude, et puis les gens ont été contents, le mot est pas juste, on était satisfait de voir que finalement, avoir un patronyme célèbre et un compte en banque confortable n'amène pas au bonheur, quoi. Et je pense que c'est la solitude qui cimente un peu l'accueil que je reçois. Je pense que certaines solitudes font écho à celles que peuvent ressentir des gens qui, eux, ne sont pas dans le domaine artistique.
Tout à fait. Et donc, dans vos projets, vous êtes en train d'écrire déjà?
Alors, je suis en train de terminer un roman. Et puis, voilà, et un roman d'amour, mais un roman. Et puis, il y aura peut-être un volume 2. Je suis aussi sur l'autre projet. Après, c'est un temps qu'il faut organiser parce que.
Bien entendu.
Là, il y a la vie privée. Moi, j'écris souvent la nuit, ou le week-end, etc. Je suis dans des interstices de liberté pour pouvoir écrire les pages, quoi. Voilà. Vous savez, il y a très peu de gens en France qui vivent de leur plume. Je pense qu'ils sont pas plus de 20. Hein. D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser. Vous savez, quels sont les auteurs qui touchent le plus en France? On accepte les Marc Lévy, la Amélie Nothomb et tout. Vous n'allez pas le deviner, ça. Ben, les gens qui touchent, parmi les auteurs qui touchent le plus, ce sont les auteurs de manuels scolaires, figurez-vous. C'est un éditeur au Seuil qui m'avait dit ça. Et parce que forcément, quand ils écrivent un manuel d'histoire de la thématique et qu'il est adopté, agréé par l'Éducation nationale, et bien, il y a des dizaines de milliers d'exemplaires partout, et c'est une rente qui tombe chaque mois. Ouais.
Donc, alors ça, c'est... je le savais, vous savez pourquoi?
Alors, dites-moi.
C'est un truc tout bête. C'est grâce au bled.
Ah oui.
Vous savez, là, monsieur et madame Bled, qui étaient des instituteurs qui sont mis à écrire ce que l'on appellerait maintenant la grammaire ou l'orthographe ou la conjugaison pour les nuls. Et à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. C'est comme ça qu'on avait eu les Bled et qu'on ils touchaient un fric fou.
Mais oui, mais oui.
Et ça, c'est un éditeur qui me l'avait dit. Bled a une expression décédée tous les deux. Il touchait, mais c'était incroyable. Incroyable. L'argent que pouvaient générer les droits d'auteur de ces deux personnes. Et c'était les plus gros vendeurs à l'époque.
Donc voilà. Après, c'est un. C'est avant tout un plaisir, c'est un plaisir, et puis c'est pas mal aussi de se dire que quelle que soit la vie qu'aura l'ouvrage, etc. Moi, ma grande fierté, par exemple, et c'est vrai que là j'étais vraiment content ce jour-là, j'ai écrit la première biographie de Roland Topor, un artiste que j'aime beaucoup. Et le temps passe, j'ai eu de bonnes critiques, Télérama, Libération, etc. Et puis Marianne aussi avait fait un bon truc. Bon. Et je vais à la bibliothèque de mon quartier, à ce moment-là j'habitais le 11e arrondissement à Paris, et je vois que mon livre était à la bibliothèque. Pour moi, ça valait tout. Ça valait absolument tout. Que mes livres soient dans une bibliothèque. Ça veut dire que une personne faisant une recherche, je sais pas, l'histoire de l'art, peut-être un jour prendrait mon ouvrage, y piquerait quelques infos. Là, vraiment, j'étais très fier. Après tout le reste, les gens qui écrivent des livres pour de l'argent, c'est de la blague, c'est pas vrai. On écrit un livre par plaisir, on écrit un livre parce qu'il est en vous et il sort de vous comme le pommier sort d'une branche d'un pommier.
Il y en a tout de même qui écrivent des livres pour leur ego, ça c'est différent aussi.
Oui, bien sûr, sans doute, mais bon, ça touche qui exactement? Je pense qu'il faut être généreux,
Nous sommes bien d'accord.
Les réseaux sociaux ont fait aujourd'hui que la société s'est terriblement tribalisée. Vous avez les pros machins. Et finalement, ce sont des petits mondes qui s'auto-asphyxient et qui restent comme ça dans une étroitesse d'esprit, en tout cas une étroitesse de regard, où ils ne rencontrent que des gens convaincus par eux-mêmes. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas, absolument pas. Ça.
Moi non plus. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu parler de votre livre, donc « À l'ombre des étoiles » que je recommande. C'est Franz Vaillant, donc, et c'est aux éditions du Cerf. Très, très beau livre. On va se quitter par votre programmation musicale. J'ai bien aimé les trois derniers titres, d'ailleurs. C'est Les Enfants Paradis de Saez, Black Trombone de Serge Gainsbourg et Je cours tout seul de William Scheller. Pourquoi ces choix pour terminer?
Encore une fois, parce qu'il y a de l'émotion derrière. Il y a de l'émotion. Seule l'émotion est intéressante dans la vie. Voilà. Ça peut être rire, hein, c'est pas nécessairement des larmes.
Bien sûr, je pense
que des morceaux de musique sont des petites éponges à émotion et c'est bien de se ressourcer parfois.
Eh bien, écoutez, moi, je vous remercie. Votre prochain livre, vous avez une date de parution?
Non.
Votre roman? Non, pas encore.
Non.
Vous n'avez peut-être même pas l'éditeur, non?
Exactement, j'ai toujours pas
l'éditeur. Eh bien, écoutez, ça sera avec plaisir que je vous recevrai dans le Café des Amis et que vous reviendrez parler de votre ouvrage auprès de nos auditeurs. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous, merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Ils étaient des sourires, ils étaient des sanglots, ils étaient de ces rires que font les chants d'oiseaux. Ils étaient des matins quand on va à bord de mer, ils étaient cœur chagrin, ils étaient cœur lumière, ils étaient des poèmes, ils étaient des oiseaux, ils étaient des je t'aime qu'on dit bord du ruisseau. Ils étaient du café, ils étaient du bistrot. Ils étaient étrangers, ils étaient sans drapeau. Ils étaient de Paris, ils étaient de province. Ils étaient cœurs de pluie qui font mon cœur qui grince. Ils étaient pleins de vie, avaient l'œil du printemps. Ils étaient cœurs qui rient quand le ciel est pleurant. Ils étaient des promesses, ils étaient de venir. Ils étaient bien trop jeunes, oui, pour devoir partir. Ils étaient fils d'Orient, fils de l'Occident. Enfants du paradis, enfants du Bataclan. Ils étaient cœur français ou international. Ils étaient la rosée qui pleure dessous le châle. Ils étaient des promesses, ils étaient des bourgeons qui font monter tristesse. Ils étaient des chansons, ils étaient des familles, ils étaient des amis. Ils étaient ceux qui brillent dans le ciel de la nuit. Ils étaient amoureux, ceux qui se sont blottis l'un contre l'autre à deux, contre la tyrannie. Ils étaient comme toi, ils étaient comme moi. Ils n'étaient pas guerriers, mais sont morts au combat. Ils étaient cœur d'amour, ils étaient cœur qui bat, puis qui battra toujours, même en dessous la croix. Ils étaient ses amis que je connaissais pas. Ils étaient mon pays, et puis le tien, je crois. Ils resteront Paris, Paris se souviendra toujours de ses amis, la lumière brillera. Il s'appelait je t'aime, il s'appelait jeunesse, il s'appelait poème, il s'appelait tendresse, il s'appelait frangine, il s'appelait frangin, il s'appelait gamine, il s'appelait gamin, il s'appelait la joie, et puis la non-violence, il s'appelait je crois les enfants de la France, de tous les horizons, puis de tous les prénoms, il s'appelait amour, s'appelait l'horizon, il s'appelait Jacques Brel, puis je crois Barbara, il s'appelait le ciel, il s'appelait pourquoi, toujours ici sommeil, l'horreur au creux du bois, qui rejoint l'éternel, va l'innocent, je crois. Ils étaient point levés, ils étaient nos concerts, ils étaient cœurs serrés, oui, face aux tortionnaires, ils étaient cœurs deuillés, des fleurs face aux fusils, à nos cœurs endeuillés, nous pleurons nos amis, à l'innocent qu'on tue, oui, tombé sous les balles, aux soldats inconnus, sous l'horreur des mitraillettes. mitraille. Si sont les lettres mortes, les cantiques du chagrin, puisque frappe à la porte les plaines de Verdun. Si sont tombés ce soir, en ce vendredi noir, les frères de mon pays, nous laissant désespoir. Mon pays, ta culture est morte, assassinée. Mais tu sais, ma culture n'en ne mourra jamais. Toi mon pays Molière, toi mon pays Vinci, toi mon pays Voltaire, toi mon pays Valmy, toi mon pays la terre, toi mon pays Paris, toi mon pays par terre, relève-toi mon pays, toi mon pays lumière, toi mon pays la vie, mon pays littéraire, mon pays triste vie, toi mon pays mes frères, toi frère de mon pays, comme on chérit sa mère, on chérit sa patrie.
Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli. Tourbillonne, gramophone, et bâillonne mon ennui. Black trombone, monotone, autochtone de la nuit. Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit. Black trombone, monotone, elle se donne à demi. Déraisonne, m'empoisonne, m'envahit. Black trombone, monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne, j'abandonne, c'est fini.
La vie c'est comme une image, tu t'imagines dans une cage ou ailleurs. Tu dis c'est pas mon destin, ou bien tu dis c'est dommage et tu pleures. On m'a tout mis dans les mains, j'ai pas choisi mes bagages en couleur. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage de bonheur. Et je regarde ceux qui se penchent aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui me parlent peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Si je ne te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Histoire que j'aime bien, j'ai parfois pris du retard, mais c'est rien. j'irai jusqu'au bout du chemin. Puis quand ce sera la nuit noire, je serai bien. Faut pas que tu penses à demain, faut pas dormir au hasard. Et tu tiens. Je cours à côté d'un train qu'on m'a donné au passage un matin. Et je regarde ceux qui s'allument aux fenêtres. Je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'aimeraient peut-être. Trop je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Même si je te comprends pas, apprends-moi ton langage. Dis-moi des choses qui me font du bien, qui me remettent à la page. Trop je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Qui s'endorment aux fenêtres, je me dis qu'il y en a parmi eux qui m'oublient peut-être. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. On vous dira sans doute que mon histoire est bizarre. Je sais, mais je peux pas m'arrêter. Y a plus de nom sur les gares. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul. Oh, je cours tout seul. Je cours et je me sens toujours tout seul.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com. Aujourd'hui, je reçois Gilles Paris avec les 7 vies de Mademoiselle Belle Caplan. C'est aux éditions Plomb. Moi, j'ai adoré le livre. Alors, ça change un peu de ce que tu écris, Gilles. Bon, il y a toujours le fond, l'adolescence, l'enfance. Mais par contre, ça change un petit peu. C'est un peu... moi, ça, tu sais à quoi ça m'a fait penser ?
Non, non, vas-y.
À Citizen Kane.
Je ne sais pas, je voulais faire peut-être un roman plus léger, mais tu sais, en même temps, la légèreté n'exclut pas une forme de profondeur, en tout cas de réflexion. Ouais. Et j'avais envie de faire à la fois un hommage au cinéma des années 50 à nos jours et de raconter le destin d'une femme inaccessible, mystérieuse, un peu comme ces stars de ces années-là d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il faut quand même dire que on a déstarisé quelque part un peu nos stars.
Oui, il manque une grosse part de mystère, tu as tout à fait raison. Et moi, je te dis que ça m'a fait penser vraiment à cet immense film Citizen Kane d'Orson Welles, avec justement la part de mystère, quelqu'un qui fait une immense...
Il n'y avait pas de Jean Marlowe dans ce film d'ailleurs
Si, il y avait Orson Welles qui jouait le citoyen Kane, et Jean Marlowe, tout à fait.
Et tout ça, en même temps, il y a un point commun à tous mes livres à chaque fois, c'est ce que je dis assez souvent, c'est-à-dire que c'est pas les drames et les épreuves qui comptent, mais ce qu'on en fait. Et ça traverse vraiment tous mes livres, que j'essaye d'ailleurs, tu as raison, il est différent un peu des autres, parce que j'essaye toujours, quand j'écris un nouveau livre, de me surprendre avec l'envie peut-être aussi de surprendre celui ou celle qui va le lire après, une fois imprimé.
Alors, j'aimerais quand même que tu nous parles de ce livre. Il est né comment ?
Il est né au moment du confinement, quand on a décidé que les librairies seraient essentielles après le non-essentiel du départ. Par contre, le cinéma a beaucoup souffert à ce moment-là et je me suis fait la réflexion d'imaginer un personnage qui naviguerait comme ça dans ce milieu. Je crois que c'est né à ce moment-là. Et puis après, j'ai fait évoluer l'histoire un peu comme on regarde une série, au fond, finalement, et dont on devient, j'espère, addict, avec l'idée d'aucun temps mort dans le roman. Après tout, l'héroïne dit souvent « l'ennui est mon pire ennemi ». C'est un peu aussi ma maxime. Et je voulais qu'il n'y ait pas un seul temps mort et qu'on ne s'ennuie pas tout au long de la lecture.
C'est le cas. C'est un peu les sept vies du chat. Est-ce que c'est un hommage au chat d'ailleurs? Parce que tu l'as intitulé Les sept vies de Mademoiselle Belle Caplan.
Les sept vies, en fait, c'est curieusement sur ce livre-là, j'ai tardé à trouver le titre. J'en avais une petite trentaine, en fait, qui était plutôt issue des réflexions que Belle Caplan faisait régulièrement dans le roman. Et puis après, en fait, en comptant les vies, y compris celles qu'elle n'a pas eues, c'est-à-dire la toute première, avant qu'on la dépose à l'orphelinat, jusqu'à l'ultime, qui est la septième, le chiffre 7 était tellement symbolique que je me suis dit, il faut que je le mette dans le titre. J'ai cherché, j'avais trouvé les sept vies de Belle Caplan, et mon éditrice chez Plon, Lise Boel, a rajouté le mademoiselle, que je trouvais très élégant, même si c'est un mot, pareil, on ne peut plus utiliser aujourd'hui dans la langue française.
Oui, ça c'est encore un grand débat.
On les appelle, on dit Mademoiselle Adjani, on dit Mademoiselle de Neuve. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une appellation spécifique aussi au corps de métier du 7e art.
C'est pas faux ce que tu dis, c'est pas faux. Alors, Gilles Caplan, qui est-elle?
Écoute, c'est une femme de caractère qu'on peut profondément détestée dès le départ, d'ailleurs, parce qu'elle est, elle est odieuse, elle est un peu méprisante, elle est un peu hautaine. Et puis, elle va peu à peu dévoiler sa vie, et j'espère que quand elle se raconte, on a comme de l'empathie pour elle, et finalement de la sympathie. C'est une femme qui a traversé des épreuves extrêmement dures et violentes, même d'ailleurs, et qui a réussi avec une force de caractère hors norme, hein, comme pour chacun de mes livres, c'est un peu une anti-héroïne, plus qu'une héroïne au sens classique du terme. C'est une femme qui a su lutter contre vents et marées pour survivre et devenir l'actrice qu'elle est devenue un peu par hasard.
Oui, elle est, c'est un peu c'est une héroïne. Elle devient star quasiment du jour au lendemain.
Sur un seul film, absolument, ouais. qui est un film historique et qui raconte la relation ambiguë de la duchesse de Polignac et de Marie-Antoinette, qui était un fait historique tout à fait avéré. C'est un film auquel personne réellement ne croit, qui sort et qui devient une espèce de carton planétaire. C'est une vraie dinguerie. Et tout le monde se rend compte, et les rédactions se rend compte à ce moment-là, que l'actrice principale qui fait la duchesse de Polignac, ben on sait rien d'elle. Il n'y a pas une ligne dans le dossier de presse. Donc, toutes les rédactions s'affolent pour savoir qui est cette femme et pourquoi. Surtout, on ne sait rien d'elle. On ne sait pas si elle a de la famille, si elle a des amants, où elle est née, ses origines. On ne sait rien.
Et puis bon, bien entendu, cette part de mystère, c'est toi plus ou moins qui nous la raconte au travers des lignes de ce roman.
Oui, oui, tout à fait.
Donc, pour l'écrire, étant donné que c'est un petit peu un livre qui est un peu à part dans ta production littéraire, tu te l'as imaginé comment il est vraiment, tu l'as structuré? Bon, bien sûr, il y a toujours des thèmes auxquels tu es très attaché, dont tu viens de parler. Mais comment tu l'as structuré, étant donné
Au départ, j'avais fait ce que je fais assez souvent, c'est-à-dire un roman choral où on entendait parler l'assistante, l'agent, le détective privé, enfin tous les personnages comme ça qui gravitent autour d'elle. Et puis je me suis dit que ça n'allait pas. Et j'ai donc entièrement détricoté, on peut dire, le roman. Et j'ai repris parce que je me suis dit, c'est sa voix à elle qu'on a envie d'entendre, c'est son histoire. Puisqu'après tout, elle cache tellement bien, passé, elle est tellement énigmatique, à la limite, ceux qui gravitent autour n'apporteront rien dans le sens où ils ne savent rien, même si au fur et à mesure, ils en apprennent un peu plus. Mais c'était via sa voix, et c'est ça qui m'a intéressé. En plus, évidemment, il y a toujours l'aspect, quand c'est un homme écrivain qui se met dans la peau d'une femme, je ne voulais pas qu'on voit l'homme derrière la femme, c'est-à-dire je voulais vraiment qu'elle soit extrêmement féminine, complexe, elle est angoissée, elle a des crises de panique, elle essaye aussi de contrôler. Elle a été élevée dans un orphelinat à Montréal, où une sœur Clarence, puis plus tard, elle est devenue une escort girl sous la houlette de Madeleine Moreau, son entremetteuse. Et ces deux femmes, Madeleine et sœur Clarence, lui ont enseigné, lui ont dit qu'il fallait pas s'attacher aux gens, qu'il fallait pas donner sa confiance, qu'il fallait être constamment sur la réserve, et elle l'a pris comme quelque chose d'acquis. Elle peut pas avoir d'amis parce qu'elle sait que si elle a des amis, elle est obligée de se confier, et elle ne peut pas se confier. Donc c'est une femme qui est pleine de contradictions dès le départ, et au fur et à mesure que sa vie se dévoile, elle devient quand même plus humaine, faillible.
Elle a quand même le sens de la perfection, du détail.
Oui, mais ça, à la limite, c'est un peu l'apanage des célébrités.
Oui,
je pense c'est pas que, faux. On essaye aussi à certains niveaux de vouloir tout contrôler. On peut pas tout contrôler, c'est impossible. Dans une vie, il y a le hasard, le destin, tout ce que font les autres. C'est impossible de contrôler littéralement tout ce qu'on fait, etc. Mais elle sait qu'elle est une très belle femme. Elle a eu des privations, des entre le sport, entre des régimes alimentaires. Elle a fait un peu de chirurgie esthétique. On sent qu'elle a lutté justement pour garder ce corps intact. Et d'ailleurs, aucun média ne lui donne réellement son âge. Elle a des gants en permanence. Et en fait, il lui donne un âge qui n'est pas le sien. Elle est plus âgée, on le découvrira à la fin.
Tout à fait. Ce travail sur ce livre a dû te prendre, par rapport à tes précédents, beaucoup plus de temps, non ?
Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses, comme par exemple, c'est une femme, il fallait que dans un univers d'hommes, quand elle est escort girl, il fallait qu'elle sache se défendre, par exemple. Elle aime pas les armes à feu. Donc, il fallait lui trouver quelque chose qui soit, comme elle, élégant, inattendu, et elle va découvrir une pratique ancestrale chinoise en allant chez un client, d'ailleurs à Taïwan, qui va lui enseigner le Dimkat, qui existe réellement et qui est un art martial qui permet, avec une légère pression des doigts, soit que la personne s'évanouisse, soit qu'elle tombe dans un long coma, soit qu'elle meure carrément. Et comme elle a parfois affaire à des hommes un peu violents, elle s'en est servie du Dimkat. Et il faut savoir que c'est pas une pratique qui s'apprend en une journée. Il faut
des
années pour savoir exactement mettre la pression qu'il faut. Donc c'est vraiment un enseignement. Et j'ai vraiment recherché ça, par exemple, et ça m'a pris du temps pour trouver cette discipline et la comprendre aussi, parce que c'était pas évident. Et beaucoup de détails dans le livre aussi qui m'ont, notamment le jardin de Madeleine avec toutes les roses, la fameuse perpétuelle qui change de parfum toutes les heures, c'est incroyable, mais c'est véridique. Donc cette fleur évidemment lui ressemble énormément, et plein d'autres petits détails qui m'ont demandé en effet de. Mais j'aime bien cette idée de comme ça de travailler en amont, de réfléchir, de trouver des idées. Ça prend du temps, mais c'est un pur plaisir.
Eh bien, oui, je vois ça. C'est vraiment, je dirais, c'est un roman, d'enquête, en fait.
Oui, parce qu'en même temps qu'elle se dévoile, au fond, elle parle d'elle, mais c'est presque une enquête aussi sur elle-même.
Oui, c'est ce que j'ai aimé, moi, dans le livre.
Après, elle a engagé un détective privé pour retrouver ce frère, Ben, avec lequel elle a été élevée dans l'orphelinat de Sainte-Croix à Montréal. Ben n'est pas réellement son frère, mais elle le considère comme son frère, puisqu'ils ont été élevés ensemble.
Bien sûr.
Il était le seul à la calmer réellement, parce qu'à l'époque où elle était enfant, elle était une enfant rebelle, en colère en permanence contre ce dieu qui l'avait rendue illégitime. Et seul Ben arrivait à la calmer, et elle le recherche parce qu'il s'est enfui, elle le recherche via un détective. Ouais. Donc il y a cette enquête-là aussi. Et puis il y a surtout peut-être une belle histoire d'amour entre elle et Pierre Lepage, qui est son amour de jeunesse et qu'elle va retrouver à un moment donné au cours du roman, pour le meilleur ou pour le pire.
Justement, après ta page musicale, j'aimerais qu'on revienne sur Ben, parce que Ben est un personnage, on va dire, clé de...
C'est un personnage clé, et d'ailleurs le Ben va lui écrire une lettre à un moment donné, et je pense que le lecteur va être très surpris par la lettre. On s'attend pas à ce que Ben parle de Belle ainsi, et c'est ce qui fait toute leur différence, parce que quelque part Belle Kaplan, elle a pas d'amis, elle a pas de lien réel, et elle est très intrusive par contre sur les gens qu'elle aime, comme Ben ou comme Pierre Lepage. Elle a une manière aussi de s'impliquer dans leur vie qui peut paraître à la fois dérangeante, exagérée, excessive, et qui lui vaudra d'ailleurs des retours un peu comme une paire de claques.
Tout à fait. Ben, on la fuit, entre guillemets.
Oui, ben, ils ont été adoptés tous les deux par une famille, les Matuchet, qui ressemblent aux Thénardier. Le père est violent, il frappe Ben. Elle, il l'épargne, mais elle est en colère contre lui. La femme ne dit rien, donc qui ne dit mot consent, comme on dit. Mmh. Et puis, ils vont finir par s'enfuir après un accident de voiture où les Matuchet vont mourir. Et puis, on en saura encore plus sur cet accident plus tard. Belle est quand même une incroyable manipulatrice. Elle ne se salit pas les mains elle-même. Elle le fait faire en général par d'autres.
Des gens qui l'admirent, qui l'aiment. Eh bien, on va faire une page musicale, mon cher Gilles. Et tu as choisi Faubel, Mon Pays.
Oui, j'adore ce refrain, surtout dans cette chanson qui est tellement joyeuse, qui est tellement enlevée. J'adore cette chanson.
Yulsek avec Sweet Addiction.
Oui.
Et DJ Farapo avec Marcignato, avec Christina Renzetti, au chant. Pourquoi ces choix?
Bah parce que tu m'as demandé de choisir des titres, alors je suis allé regarder dans mes playlists et j'ai pris des morceaux que j'écoute en ce moment beaucoup, en boucle, que j'aime et qui sont très différents. J'ai choisi Faudel, après j'ai choisi un groupe d'électronique, après j'ai choisi quelque chose de plus de l'ordre de la salsa. Donc voilà, c'est aussi l'ouverture que je peux avoir sur la musique qui a beaucoup d'importance dans ma vie. J'en écoute énormément. Et qui donne un peu un rythme au jour qui passe.
Et ces titres-là, ceux que tu as proposés aujourd'hui, ont bercé l'écriture du roman ou pas ?
Non, parce que je les ai découverts après. Disons que c'est les tendances et mes humeurs de ces dernières semaines et ces derniers mois.
Eh bien, écoute, on se retrouve après la pause musicale. Oui. À tout de suite.
Je ne connais pas ce soleil qui brûle les dunes sans fin. Je ne connais pas d'autre terre que celle qui m'a tendu la main. Et si un jour je pars d'ici, que je traverse le désert, pour aller voir d'où vient ma vie, dans quelle rue jouait mon père. Moi qui suis né près de Paris, sous tout ce vent, toute cette pluie, je n'oublierai jamais mon pays, jamais mon pays. Et si demain comme aujourd'hui, je dois faire le tour de la terre pour chanter au monde mes envies, voyager des années entières. Moi qui suis né tout près d'ici, même si je quitte mes amis, je n'oublierai jamais mon pays. Trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici. De temps abandonné sur les bancs de ma cité, trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. Que c'est ici que je suis né. Je ne connais pas ce parfum de menthe et de sable brûlant, mais seulement les embruns sous les rouleaux de l'océan. Et toi qui me trouves un peu mat pour ces rues bordées de prairies, un peu trop blanc en couleur de frat pour ces poèmes que j'ai appris, tu es bien le seul que j'oublie, telle l'étoile fidèle à la nuit. Je n'oublierai jamais mon pays, jamais.
I don't wanna be hiding no more. I don't wanna be running no more. I just wanna be cruising, oh, by the shore. I just wanna be holding hands and more. And I just wanna be free to ignore the hate you keep in store. Sweet addiction to you, revelator.
De retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com. Je reçois aujourd'hui Gilles Paris avec les 7 vies de Mademoiselle Belle Caplan. C'est aux éditions Plan et c'est un magnifique roman comme nous habitue depuis longtemps que Gilles, c'est le numéro combien? C'est le 12e?
Alors en fait, c'est mon 11e livre.
Ah, j'ai dit 12, hein.
Et c'est mon 7e roman adulte, ce qui était amusant parce que le chiffre 7 revient souvent dans le titre. Mon 7e roman adulte, il est sorti le 7 septembre. Voilà, c'est juste amusant, c'est un clin d'œil de plus au chiffre 7 qui représente aussi le 7e art.
Exact, c'est vraiment le chiffre clé du livre.
Oui.
C'est le chiffre clé du livre. Alors, bon, on a parlé de Pierre, son amour de jeunesse, de Ben. On a beaucoup parlé de Ben. Maintenant, pouvons-nous revenir sur l'autre personnage principal, on va dire, son amour de jeunesse?
Oui, Pierre Lepage. Et d'ailleurs, c'est une rencontre assez étonnante. Elle est à Montréal à ce moment-là avec son frère Ben. Ils ont fui les Matuchets, ils n'ont pas d'argent, ils errent dans les rues comme des clochards. Et ils vont tomber par hasard sur ce géant, parce qu'il est très grand. Il a une façon un peu étrange de marcher d'ailleurs, comme s'il perdait un peu son équilibre. Et lui, qui est un peu plus âgé, va s'attacher aux deux enfants et se sentir pour une fois utile dans sa vie. Il va pas les adopter, mais il va s'en occuper. Et en même temps, il va peu à peu trouver même un métier à Paradis, puisque Belle s'appelle Paradis à ce moment-là, et va lui apprendre à voler, parce que c'est un voleur émérite, c'est une sorte d'Arsène Lupin. Et dans les quartiers d'Outremont à Montréal, qui sont les beaux quartiers avec des villas qui ressemblent à des palais, des femmes très élégantes qui portent des bijoux, Paradis va apprendre à dérober les boucles d'oreilles, les colliers, les sacs, leur contenu et tout le reste. Et au fond, pour elle, c'est presque une récompense ou en tout cas une revanche sur ce que la vie lui a enlevé, parce qu'elle a l'impression de tout récupérer avec ses vols qui viennent à elle par rapport à toutes les vies qu'on lui a volées.
D'accord. Et dis-moi, j'ai une question toute bête. Belle Caplan, Belle Paradis. Caplan est une chanteuse, était une chanteuse. Est-ce que c'est un clin d'œil? Non.
Non, du tout. Non, du tout. Tu sais, il y a aussi une comédienne qui s'appelle Nelly Caplan, mais j'y ai pas pensé.
Exactement.
Non, j'y ai pas pensé. J'ai cherché. Le prénom était évident. Ça, j'ai tout de suite trouvé Belle. Parce qu'en plus, le producteur l'a choisi vraiment pour sa pastique. Et puis, le nom de famille, il fallait un nom hébraïque quand même par rapport au choix du producteur.
Exactement.
C'est important. Donc, j'ai cherché des noms de famille hébraïque et il fallait aussi, si tu veux, que c'est toujours la complexité, c'est-à-dire que si on veut en faire une héroïne, il faut que le prénom accolé au nom, les gens s'en souviennent facilement.
Et ça
passait extrêmement bien.
C'est vrai. Donc, c'était un petit clin d'œil parce que moi, quand j'ai reçu le livre, avant d'ouvrir les pages, j'ai eu ce petit truc.
Non, ça n'a. Non, franchement, j'ai pas pensé ni à la chanteuse, ni à l'actrice.
Merci d'avoir balayé ma réflexion. Donc, Belle Caplan, c'est quand même un personnage qui pourrait exister. Même certaines, tu parlais au départ, certaines stars des années 40-50 étaient un petit peu mystérieuses comme cela.
Oui, mais on n'avait pas les réseaux sociaux, n'oublie pas.
Voilà.
Les réseaux sociaux aujourd'hui, elle est dans un cas particulier parce qu'elle refuse les interviews, elle n'a pas de réseaux sociaux, elle n'a même pas de portable, ce qui est absolument inimaginable aujourd'hui. Si on imagine une star, mais elle a ses raisons, c'est parce qu'elle veut pas qu'on retrouve, qu'on dénigre son passé, et donc elle prend toutes les précautions possibles. C'est aussi la raison qui fait ça. Et simplement, elle a aussi beaucoup de chance, parce que la chance est souvent avec elle. C'est-à-dire que quand les journaux agacés de ne pas avoir d'interview commencent à écrire n'importe quoi, elle a énormément de fans, et les fans vont aller dans une rédaction détruire les ordinateurs qui dans lesquels on a raconté
n'importe quoi
sur elle. Voilà. Et donc, elle a cette chance aussi dans la vie. Elle pourrait exister, sûrement, probablement. Tu sais, l'idée que j'ai toujours, c'est d'écrire des personnages, d'inventer des personnages qui ont quand même du sang, des os, du muscle, de la peau. Autrement dit, de les rendre encore plus vivants qu'un personnage de simplement de papier.
Tout à fait. Alors, c'est marrant, moi, elle a cette vie. Les lecteurs pourront s'en rendre compte. Par contre, ce qui est amusant, c'est que c'est, dans ton livre, c'est quand même assez fin. Tu rythmes le livre avec ces changements de look, on va dire, entre les lentilles de couleur, la coiffure, la couleur des cheveux. Et c'est assez amusant, ça. C'est un parallèle qui est assez amusant par rapport aux sept vies.
Ça oui, mais aussi dès son enfance, hein, dès qu'elle se trouve à l'orphelinat de Sainte-Croix à Montréal, elle adore se grimer, changer ses cheveux de couleur. Elle a déjà ça en tête de se métamorphoser, de multiplier ses existences, encore plus puisqu'elle elle a vu tous les grands films romanesques des années 50, 60, et souvent elle prend des pauses, elle imite Audrey Hepburn, elle imite Rita Hayworth, elle imite Ava Gardner, elle joue de ça en multipliant d'autant plus ses identités, sa couleur de cheveux, ses lentilles, enfin, elle a l'art de se métamorphoser.
Tout à fait, tout à fait. Est-ce que, bizarrement, tu t'es inspiré pour les personnages de personnes que tu as été amené à côtoyer avec ta riche carrière professionnelle?
Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Parce que j'ai défendu pas mal de personnalités. Donc, certaines, en effet, m'ont influencé. Des petits détails, tu sais, dans les... quand tu observes bien les gens avec lesquels tu travailles, dans l'ego, dans le caprice ou dans une attitude, par exemple, j'ai pris en effet des choses d'écrivains que j'ai défendus et que j'ai mis à l'intérieur de Belle Caplan aussi pour nourrir encore plus le personnage.
Tout à fait. Tu as inclus aussi des clins d'œil avec des artistes existants. Ça t'a amusé de mettre par exemple Sharon Stone sur à un moment donné?
Absolument, parce que ça a un lien direct avec son âge qu'on découvrira donc à la fin. Et par exemple, le tournage du film américain, j'ai quand même changé le nom du réalisateur, qui est un réalisateur très connu, parce que tu sais, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit dans les livres.
Bien après, sûr.
Même évoquer la figure de Nicole Kidman. Tel que je le fais, c'est bienveillant, il n'y a rien de péjoratif dans tout ça. Donc, j'ai pas eu le sentiment que je trouvais ça même amusant qu'elle fasse des courses ensemble sur Rodeo Drive et que dans la tête de Belle Caplan, elle se dit, je pourrais jamais m'en faire une amie, parce que je serais obligé de lui confier des choses que je ne peux pas lui confier.
Justement, est-ce que tu as eu des retours de ces personnages existant suite à la sortie du livre?
Non. Sharon Stone, t'es malade, toi, ou quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'elle revienne vers moi ou Nicole Kidman? T'es un peu dingue, toi?
Non, pas du tout.
Ah, mais aucune raison.
Pas du tout, parce
qu'elles doivent totalement ignorer l'existence du livre, qu'est-ce que tu crois?
Oh, mais quand il sortira en film, sûrement pas.
Peut-être. Un film très cher, hein, quand même, hein.
Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Ça, il faut un gros budget quand même.
Oui, quand même.
Ce livre, moi, m'a vraiment beaucoup plu, Gilles. En fait, je ne t'attendais pas là.
Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien, c'est un compliment, ça. Tu vois.
Mais je sais, je ne t'attendais pas là et j'ai adoré. Bon, j'avoue franchement que pour moi, Citizen Kane, le film... on peut faire un parallèle, mais sans plus, hein, ça n'a rien à voir avec Citizen Kane.
Non, je sais.
Mais par contre, c'est un livre qui est dans ce sens-là, et je te jure, c'est mon film préféré.
Ah ouais, non mais je veux bien le croire.
Et ça, c'est beau. On voit la Belle Caplan est quelqu'un quand même d'assez froid, d'assez manipulateur. Tu l'as dit tout à l'heure également. Oui. C'est aussi, on apprend au début, effectivement, on peut la détester parce qu'elle, c'est vraiment, elle est pas odieuse, mais très froide. Et à la fin, quand on commence à soulever ou à tourner les pages, comme on tourne le voile qui est posé sur sa vie, on découvre et on commence à avoir de la compassion pour elle, par exemple.
Oui, c'est peut-être ce qu'il nous faudrait pour mieux connaître chaque individu auquel on s'attache, c'est-à-dire de connaître sa trajectoire, son parcours, pour mieux comprendre la personne qu'elle est en fait en réalité.
Ce livre t'a pris, je pense, beaucoup de plaisir, ça se sent, pour l'écrire.
Oui, tout à fait. J'ai mis à peu près 3 ans pour le faire, grosso modo.
Ah oui, quand même.
Oui, il m'a pris du temps, mais il faut le temps pour bien faire les choses.
Mmh. Ah oui, ça. Mais t'as bien fait les choses. Je te rassure.
Merci.
On va dire une chose, c'est que. Pardon, excuse-moi. C'est un livre quand même un peu de sacrifice parce qu'elle s'est modelée.
Oui, mais toute vie est faite aussi de sacrifices. Peut-être pas, on ne peut pas les comparer à ceux de Belle Caplan, mais je crois que c'est aussi une métaphore de la métamorphose de toute personne, au fond, qui se bat pour son avenir et pour devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien, peut-être.
D'ailleurs, tu parles de cette vie de Belle Caplan, qui est actrice, hein, je le rappelle, mais justement, est-ce que ce n'est pas cette rôle ?
Elle est constamment et en permanence une comédienne, une actrice.
Voilà.
Elle l'est dès l'orphelinat d'ailleurs, donc toute sa vie, elle est une actrice dans le sens où elle prend des pauses, P-O-S-E, elle prend des pauses, c'est-à-dire que elle imite, elle transforme, elle est une comédienne avant tout, elle est sa naissance.
Elle est très intelligente d'ailleurs. Mais par rapport à Belle Caplan, tu poses quand même un regard très, très virulent sur la presse.
En tout cas,
sur les éditoriaux.
Virulent, je ne sais pas, mais en tout cas, un regard sur... On a quand même beaucoup de chance en France que nos stars soient protégées. C'est pas le cas en Angleterre ou aux États-Unis où les gens sont beaucoup harcelés à ce niveau-là. Mais en même temps, c'est un regard lucide.
C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je t'entends plus, Gilles.
Non, mais je vais finir.
Ah bon. Oui, c'est vrai que c'est lucide. C'est lucide et puis bon, c'est malheureusement réaliste. Et c'est vrai que les en France, ils sont protégés, mais pas à l'étranger. Est-ce que tu, justement, pour ce milieu du cinéma que tu décris parfaitement dans ce livre également, au travers de Belle Caplan. Tu as demandé des avis à des personnages du spectacle, du cinéma que tu connais.
Non, pas du tout. C'est ma connaissance du
monde
cinématographique. J'ai des amis producteurs, j'ai des amis comédiens. C'est vraiment, y compris les déjeuners sous les tentes à Hollywood et tout ça. Non, c'est vraiment du travail que j'ai fait sur Internet et puis avec quelques recherches aussi pour parler des actrices que j'ai aimées dans leurs films que je cite d'ailleurs.
Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs et qu'est-ce que tu voudrais que ce livre dans le futur l'image qui restera de ce livre et qui reste de ce livre.
Là, tu me poses une question difficile parce que est-ce qu'on sait ce que deviendra un livre, tu vois, dans 5 ou 10 ans ou 50 ans? Ce que je peux te dire, c'est que j'ai eu la chance de publier un roman qui s'appelle, que tu connais, qui s'appelle Autobiographie d'une courgette. Il y a 21 ans, ce qui est déjà un miracle qu'on continue à en parler autant, après avoir été adapté à la télévision, au cinéma, maintenant c'est au théâtre à Paris depuis le 25 août jusqu'au 8 janvier 2024. Après, ça va tourner dans toute la France. Et c'est un miracle. C'est une chose merveilleuse. Là, je peux t'en parler. Belle Kaplan, je ne sais pas ce qu'elle va devenir. J'en ai pas la moindre idée, pour être honnête.
En fait, elle t'appartient plus.
Non, elle m'appartient plus depuis le moment où je la rends à l'éditeur, d'ailleurs. Quelque part, c'est le moment de scission totale où tu donnes un manuscrit et où le livre, quelque part, ne t'appartient plus.
Et les lecteurs s'accaparent le livre et d'un lecteur à un autre, il n'a pas la même vision du livre.
Non, absolument. Et puis ça fait partie des choses. Quand on est écrivain, on s'expose au regard des autres, à la critique des autres, qu'elle soit bonne ou moins bonne, au jugement des lecteurs, qu'ils soient bons ou moins bons. Mais ça fait partie de la vie des écrivains.
Pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire justement à tes lecteurs et à tes futurs lecteurs?
De continuer à m'être fidèle, évidemment, de continuer à me lire. Pour moi, tu sais, quand je me déplace beaucoup dans les salons et parfois en librairie, ça me permet de savoir qui me lit aussi. Et je prends un grand plaisir à parler à des lecteurs qui me connaissent bien ou à des lecteurs qui n'ont jamais entendu parler de moi. Ça remet bien d'équerre, ça rend bien humble d'une certaine manière, et puis je les amène peu à peu à avoir envie de me lire. Mais je crois que c'est tout un travail commun qu'on peut avoir avec les lecteurs quand on les rencontre, et c'est toujours un plaisir.
Et les retours des lecteurs par rapport à ce livre, ils sont bons?
Plutôt bons jusqu'à présent. J'ai que des bons retours, là, vraiment. Même très bons, pour dire la vérité. Après, on verra, parce qu'on est à tout juste un mois de la sortie, ce qui est quand même encore un peu court pour se rendre compte de tout ça. Il faut attendre encore un petit peu de temps.
Mais écoute, Gilles, moi, je te remercie beaucoup de ce petit entretien avec
Merci,
toi,
Pierre.
Comme d'habitude, d'ailleurs.
Merci.
Et on finit par ta programmation musicale. Donc, tu as choisi Patrick Baudage avec Back to You, Oliver Heldens avec Ten Out of Ten, avec Kylie Minogue, et Celso Fonseca avec La Pupila del Mondo.
Tu verras, c'est brésilien, ça.
Et puis, ça va tout à fait avec le livre.
Oui, tout à fait. c'est absolument ravissant, quand même.
Eh bien, on écoute ça. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel entretien. Merci encore, Gilles, et à très, Merci, très, Claire. Très bientôt.
Merci à toi.
out of 10.
Body, 10. Touch, 10. Energy, 10. 10 out of 10. Body, 10. Touch, 10. Energy, 10. 10 out of 10.
You're moving with a dime. Top of the line. Looks so good, should be a crime. Running your mind all day and all night. Wanna kiss me but the sun don't shine. Wow. Wanna devour. Before you might get wet, bring a tail. After we're done, let's hop in the shower. Counting the seconds, minutes, and hours. You got my full attention. Spend it all on you. Yeah, I don't do halfway love. Stop once my mind's made up. You know I'm gonna give you 10 out of 10. Know I'm gonna love you to death. Baby, all night again and again. You know I'm gonna give you 10 out of 10. That'll give you something you can't forget. Baby, all night again and again.
10 out of 10.
Body, 10. Touch, 10. Energy, 10. 10 out of 10. Body, 10. Touch, 10. Energy, 10. 10 out of 10.
I could love you perfectly. Can't fulfill your fantasy. Make your dream reality. Show you every part of me. 100% iron on the fence. Never been being medicine. Come get your fix. Oh yeah.
Do morro sou eu mesmo, sim senhor.